Je n'écris pas des histoires, mais des biographies. Écrivait déjà l'auteur des Vies parallèles dans l'Antiquité, plus tard, que le genre biographique n'est pas forcément le plus populaire, le plus estimé, le plus en vue à l'université en France. Pourtant, il ravit les éditeurs parce qu'il ravit les lecteurs. Quelques ventes, pas si fréquentes pour les bouquins d'histoire ou d'une manière générale dans l'édition. Il y a encore en France, oui, de grands biographes. Quelques-uns, Pierre Combes pour l'Antiquité, Jean-Christian Petit-Fils, Emmanuel de Varesquiel pour l'Ancien Régime et Arnaud Tessier pour la période contemporaine. Arnaud Tessier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour vous présenter succinctement, vous êtes haut fonctionnaire, biographe, historien. Nous vous recevons ce soir comme biographe pour la circonstance, puisqu'elle s'y prête, avec la réédition de Charles de Gaulle, L'angoisse et la grandeur chez Perrin, paru initialement en 2024, réédité, je crois, depuis quelques semaines.
Depuis quelques jours.
En édition poche. Une double circonstance, plus ou moins heureuse, vous nous direz, puisqu'elle est également cinématographique, avec en salle, depuis mercredi, La bataille de Gaulle, qui, sur lequel je crois, vous êtes déjà exprimé. Alors, cette double circonstance est-elle heureuse, cher Arnaud Tessier ?
Oh bah c'est toujours bien qu'on parle de Gaulle. Hein. Alors, on en parle plus ou moins bien. J'ai été assez critique dans mes positions dans Le Point et puis à la télévision, dans C'est à vous, ou auprès de Marianne, sur le film, parce que je trouve que le film comporte des erreurs quand même assez gênante, même si, évidemment, l'intention romanesque peut excuser beaucoup de choses. Je trouve que ça renvoie de Gaulle une image qui n'est pas tout à fait conforme au personnage qu'il était, qui quelquefois confine au contresens. Mais il est certain que le film fait parler de Gaulle, fait découvrir, alors peut-être pas de manière idéale, mais fait quand même découvrir à beaucoup de gens que la guerre, ça n'a pas été seulement la collaboration, Vichy, etc., mais que ça a été aussi les Français libres, des gens qui se sont battus très tôt pour la libération de la France. Et j'espère qu'on verra, dans la deuxième partie du film, le rôle de l'armée d'Afrique et de l'armée française reconstituée, qui était considérable dans la libération de la France et dans la victoire sur l'Allemagne.
Vous voulez dire que le film peut clore la parenthèse « Nuit et brouillard » de ce cinéma très pessimiste sur la situation française pendant la guerre ?
Non, je pense que ça n'enlève rien.
Le chagrin et la pitié.
Voilà, ça ne retire rien à ce qu'on sait sur ou à ce qu'on dit sur la période de l'occupation. Mais c'est vrai qu'on a souvent une vision un petit peu unilatérale des choses. On a l'impression que la France a été lamentable, etc. Et donc, c'est bien de rappeler que très tôt, dès juin 40, alors qu'il n'y a pas de gouvernement de Vichy et que l'armistice n'est même pas signé, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés pour continuer la guerre. Alors, ce qui est dommage dans le film, c'est qu'on a l'impression que De Gaulle sort de nulle part. On le voit avec son casque conduire son unité blindée à la bataille à Montcornet. Puis pouf, on le voit arriver à Londres sans transition. On ne nous dit pas qu'entre-temps, il est entré au gouvernement de Paul Reynaud, qu'il s'est opposé à l'armistice, qu'il était sous-secrétaire d'État à la guerre, ce qui lui a permis de rencontrer deux fois Churchill. Et Churchill le connaît donc déjà, et Churchill le voit comme un homme politique déjà, et pas seulement un militaire. Et évidemment, ça explique beaucoup de choses par la suite. Tandis que dans le film, on a l'impression que c'est une sorte de Don Quichotte, surgi de nulle part, certes assez héroïque, mais un peu autiste, faisant des crises de nerfs un petit peu à tout bout de champ. Donc voilà, c'est pas mon De Gaulle, je crois que c'est pas le De Gaulle réel, même si l'acteur a fait un beau travail, avec un texte qui n'était pas bon, il a fait un beau travail d'acteur. Voilà, donc je suis assez critique sur le film, mais je reconnais que le cinéma permet, même lorsque ce n'est pas parfait, de remettre sur le tapis des choses et peut-être de remettre en perspective des choses qui sont un peu oubliées ou qui sont méconnues du public.
Oui, une façon pas simple d'adapter De Gaulle sur grand écran. Alors, on se souvient sur petit écran d'un téléfilm avec, je crois, c'était Bernard Farcy, une adaptation assez troublante de vérité, quand même. Pour le coup, effectivement, présenter De Gaulle peut-être plus en réalité, avec une certaine profondeur, une épaisseur de vue.
Très centré sur les années de traversée du désert, d'ailleurs.
Oui,
effectivement. Oui, le problème, c'est là, on voit De Gaulle juste pendant la guerre, mais on ne nous dit pas ce qu'il a fait avant. Et on a du mal à imaginer. Moi, c'est la question que j'ai posée, d'ailleurs, l'autre jour, et qui me paraît quand même assez fondamentale. Est-ce que, quand on a vu le film, on imagine que c'est ce même homme qu'on voit sur l'écran qui, 15 ans plus tard, c'est-à-dire rien, va fonder la Ve République. Et tout de suite, quand vous dites ça, les gens vous disent « Ah non, c'est vrai qu'il y a une rupture de ton. Voilà. »
Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur. Nous savons qu'en histoire, certains historiens étudient les périodes, les institutions, les structures, les processus. Et puis, il existe encore des biographies qui, de livre en livre, poursuivent une même interrogation à travers plusieurs vies. En vous lisant, on a parfois le sentiment que De Gaulle, que Richelieu, que Lyautey, que Pompidou, que Péguy ou que Philippe Seguin, auxquels vous avez également consacré des opus, nous y reviendrons, ne sont pas seulement les sujets ou les objets de vos ouvrages. Ils sont les différentes figures d'un même problème. Comment faire tenir ensemble une communauté politique? Comment préserver l'unité d'un pays que l'histoire semble toujours travailler par la division? Qu'est-ce qu'un homme d'État? Qu'est-ce qu'une grande vision politique? Et pourquoi certains hommes paraissent-ils habités par une idée de la France plus vaste qu'eux-mêmes? Nous parlerons bien sûr de De Gaulle, mais peut-être aussi à travers lui d'une certaine tradition française de l'État, du pouvoir, de la grandeur et, pourquoi le cacher, aussi de la mélancolie. Première partie, général De Gaulle. Charles De Gaulle est un personnage qui, certes, embarrasse l'historien. Embarrasse puisqu'il ressemble finalement trop à ce héros de roman dont les historiens scientifiques aimeraient se débarrasser ou s'éloigner. On y trouve tout ce que l'universitaire se méfie d'y trouver. Le génie solitaire, l'homme providentiel, la volonté qui triomphe des circonstances, le destin qui semble se dessiner à mesure qu'il s'accomplit. De Gaulle, c'est l'officier méconnu de 40 qui refuse l'effondrement général. C'est la voix de Londres qui parle à une France vaincue. C'est le chef de la France libre qui s'impose aux alliés eux-mêmes. C'est l'homme de la traversée du désert, puis du retour de 58. C'est enfin le fondateur d'un régime politique qui lui survit encore aujourd'hui. Toutes les mythes et mythologies politiques qu'avaient identifié Raoul Girardet, Alexandre le vainqueur, Solon le restaurateur, Périclès le sauveur, Cincinnatus l'homme du désert, finalement toutes ces légendes, vous le dites en introduction, cher Arnaud Tessier, elles sont vraies, elles se vérifient. Là où l'histoire passe son temps à mettre à distance le légendaire pour aller vers l'homme, là où l'histoire passe son temps à chercher à réaliser quelque chose de plus vrai, de plus objectif, vous le dites à l'examen, à la recherche, finalement, dans cette image d'Épinal du général de Gaulle, je n'ai vu que des réalités. Oui, de Gaulle était à la fois Cincinnatus, à la fois Solon, à la fois Alexandre, à la fois Périclès. Cher Arnaud Tessier, à travers cette nouvelle biographie du général de Gaulle, nous pourrons revenir sur l'écriture biographique du général de Gaulle et les différents opus qui lui ont été consacrés ces dernières années. Mais l'originalité de ce dernier point n'est-il pas justement de vouloir réhabiliter ou plutôt donner une légitimité scientifique à la légende gaulienne ?
Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai citée l'autre jour, de Gaston Palevski, qui était un des premiers compagnons de la Libération, et qui était le directeur de cabinet de De Gaulle à la Libération, et qui restait un proche de De Gaulle. Il a présidé le Conseil constitutionnel plus tard. Gaston Palevski disait de De Gaulle, il disait cela, « L'histoire est riche des statues, la petite histoire raconte des anecdotes. Chez De Gaulle, c'est la statue qui a raison. » Le général a pu avoir des faiblesses dans la conversation, il n'en a jamais eu dans l'action. Je crois que ça définit très bien le caractère tout à fait unique de De Gaulle. Oui, c'est la statue qui a raison et c'est ça qui est étrange. Et ce n'est pas de ma part une sorte de réflexe d'adoration préalable. Je viens d'une famille où la vision de De Gaulle était un peu compliquée et pas très favorable. Et moi, j'ai toujours été dans une relative admiration de De Gaulle, mais je le voyais d'assez loin. J'ai fait un livre dans mes jeunes années sur la Ve République. Je ne réécrirai pas du tout...
Très les mêmes étudiants en histoire.
Voilà, mais je ne réécrirai pas du tout de la même manière les chapitres sur De Gaulle, parce que depuis, j'ai travaillé beaucoup sur De Gaulle, énormément. Et plus on travaille sur De Gaulle, enfin, c'est mon cas, je ne sais pas si les autres biographes de De Gaulle ont éprouvé la même chose, plus on travaille sur De Gaulle, plus on est saisi d'une forme, oui, d'admiration, que j'ai ressenti peut-être de la même manière, celui pour lequel j'ai ressenti un peu le même sentiment, c'est Richelieu. Et il y a un point commun entre les deux, c'est que De Gaulle comme Richelieu ont été effectivement statufiés, mais d'une manière telle qu'on finit par ne plus voir l'homme véritable. Et il faut faire comme j'ai fait pour Richelieu, essayer de le faire en tout cas, pour le tableau de Philippe de Champaigne, et pour De Gaulle, ça me fait bien. C'est-à-dire, regarder le tableau de Biet, pour essayer de voir le personnage différemment et de déplacer un peu l'angle de vision. Et puis là, certaines choses qui paraissaient secondaires paraissent tout d'un coup capitales. Chez Richelieu, ce qui m'a frappé, ce n'était pas une intention préalable, ce n'était pas un préjugé que j'avais, que je voulais vérifier. J'ai découvert en travaillant sur Richelieu que cet homme n'était pas seulement, comme on le sait ou comme on le croyait, simplement un très bon évêque, un homme d'État implacable, porteur de la raison d'État, mais que c'était un très bon évêque, qui s'était beaucoup associé de son diocèse. J'ai découvert, je me suis rendu compte, et j'espère avoir montré, que c'était bien plus que ça, c'était un prêtre authentique, animé par une foi véritable, et que du coup, toute sa vie, toute son action, pouvait être réinterprétée de manière différente. Pour De Gaulle, même chose. Je me suis rendu compte, en travaillant sur De Gaulle, au fil des années, que cet homme était guidé, en réalité, par une idée, depuis le départ, qui ne l'a jamais quitté, et qui a façonné toute son existence. Et que ce n'est pas seulement un homme providentiel, parce que dans l'idée d'homme providentiel, il y a l'idée que des circonstances se produisent et que la figure historique va se saisir des circonstances pour émerger sur la scène et pour s'imposer, pour devenir un homme d'État, un personnage historique. Chez De Gaulle, ce n'est pas seulement l'homme providentiel, c'est quelqu'un qui suscite les circonstances, qui est quelqu'un qui les provoque, comme il le fait, par exemple, début juin 40, cette fameuse période qu'on ne voit pas dans le film, quand il écrit à Paul Reynaud, le président du Conseil, qu'il connaît, pour lui dire, pour lui intimer littéralement l'ordre de le prendre au gouvernement, parce qu'il sait qu'il est encore possible d'agir de l'intérieur, la défaite n'est pas encore inéluctable. Et si De Gaulle n'avait pas forcé Paul Reynaud à le prendre, il n'aurait jamais rencontré Churchill, et il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait ensuite. Donc ce n'est pas les circonstances qui l'ont servi, c'est lui qui a provoqué le destin.
Frédéric Magellan.
Oui, quand on se met à l'écriture d'un De Gaulle, ce n'est pas un personnage pour lequel il manque de biographie, de somme. Est-ce qu'on a un peu le trac de se dire qu'est-ce que je pourrais apporter d'original? Et est-ce qu'on, d'ailleurs, on relit tout avant de s'y mettre? On relit tout sur toutes les biographies récentes, récentes, voire étrangères?
Moi, j'ai une méthode, je ne suis pas le seul, je crois, d'ailleurs. J'ai beaucoup lu sur De Gaulle, mais par contre, quand je me suis lancé dans l'écriture d'un livre sur De Gaulle, je n'ai pas ouvert les autres biographies. Je m'y suis reporté de nouveau après avoir terminé l'essentiel de mon travail, mais je ne voulais pas être influencé par le point de vue des autres historiens. Je voulais me faire mon propre point de vue de façon à être le plus autonome, le plus indépendant possible dans mon approche, même si évidemment je connaissais les biographies de De Gaulle, je savais ce qui avait été écrit sur De Gaulle, j'ai voulu quand même agir d'une manière tout à fait nouvelle. Mais surtout, je crois que des figures comme De Gaulle, il y a quelques figures dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de France comme cela, on peut réécrire des biographies, je ne dirais pas indéfiniment, mais d'abord parce qu'il y a des sources auxquelles on n'a pas eu accès, il y a des sources nouvelles, et puis tout simplement parce que les historiens ont beaucoup tendance justement à se répéter et sont beaucoup façonnés. Richelieu, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui, à mon avis, étaient inexactes ou rendaient de Richelieu une image qui n'était pas la bonne et qu'on se répétait alors de chroniqueur en historien, de sources, de telle source en telle source, etc. et qu'on finissait par créer une sorte de couche épaisse qui dissimulait le personnage. Donc il y a une façon très radicale d'aborder la biographie de figures comme De Gaulle ou Richelieu, c'est tout simplement d'aller les lire. Et il se trouve que, pour citer ces deux personnages, mais je pourrais en citer d'autres, la matière est très riche parce qu'ils ont énormément écrit. Richelieu a écrit énormément de textes, dictés ou écrits énormément de textes. Il a composé des textes théologiques, des textes controverses, des textes pastoraux. Il est l'auteur d'instructions politiques et diplomatiques d'une richesse énorme. On a des notes de lui. Et De Gaulle aussi a écrit des mémoires, des livres, des instructions. Et il faut lire systématiquement ces personnages. Et à ce moment-là, des choses auxquelles on ne fait pas assez attention remontent à la surface. Moi, je pratique beaucoup la source directe. Pas seulement les archives, mais la source directe. Et lorsque je consulte les archives, je l'ai fait pour Philippe Séguin en particulier. Oui, vous... Alors là, c'était particulier parce que je l'avais connu, je l'avais vu, j'avais travaillé avec lui. Mais j'ai regardé systématiquement, j'ai cherché dans ces archives systématiquement les annotations personnelles, parce que je savais qu'elles étaient très importantes.
Effectivement, vous expliquiez, je crois, en préface de cette biographie de Richelieu, qui était parue il y a quelques années chez Perrin, qu'en fait, l'essentiel des sources sur lesquelles avaient été fondées les études de Richelieu, c'était les pamphlets, lesquels avaient inspiré les romans d'Alexandre Dumas, et donc donné cette image ténébreuse d'un cardinal presque concubin, d'un prêtre qui n'avait pas la foi, d'un politique retors, finalement. C'est vrai que le fait de retenir à la matière première et de prendre au sérieux ce que tels acteurs de l'histoire ont écrit, finalement, nous dispense peut-être de cette sacro-sainte distance critique par rapport à l'objet, mais finalement, il faut quand même être dans l'objet, il faut quand même se nourrir de l'objet, il faut quand même épouser finalement complètement
Il faut essayer d'entrer, enfin c'est très ambitieux, c'est vraiment très ambitieux, très présomptueux, mais c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que Daniel Alévi, disait à propos de Charles Péguy. Il faut essayer d'entrer dans la tête du personnage, sinon dans son cœur et dans son âme, mais au moins d'entrer dans sa tête, d'essayer de comprendre comment il résonne, comment sa pensée se forme, comment il réagit aux événements. Alors évidemment, c'est très présomptueux, mais c'est possible d'essayer de le faire, tout simplement en lisant, en étudiant de très près le comportement psychologique. Et là, on découvre des choses, mais c'est quelquefois compliqué. Je sais que sur Richelieu, il m'est arrivé de me heurter à des murs, soit chez des historiens, soit chez des religieux, souvent chez des religieux, à des murs, quand je leur disais que Richelieu, en fait, était un prêtre animé par une foi ardente et qu'on ne pouvait pas comprendre l'action politique de Richelieu si on ne pensait pas, si on ne savait pas, si on ne réalisait pas qu'il agissait en prêtre, obsédé par la faiblesse humaine et par la nécessité absolue de restaurer l'unité de l'Église qui, pour lui, primait sur tout le reste. Je me suis heurté à de véritables murs d'incompréhension, voire d'hostilité, parce que, voilà, ça ne passe pas. Alors, je ne dis pas que ce sont des gens qui sont obsédés par les films de KPDP ou par les Trois Mousquetaires ou par l'image... Ce sont des gens, je pense à des gens qui ont une certaine profondeur, qui ont beaucoup travaillé, mais parce qu'ils ne veulent pas admettre, c'est quelque chose qui les heurte.
La méfiance aussi répandue dans l'Église lors de la seconde partie du XXe siècle pour l'action politique, finalement, qui est vue comme radicalement distincte de l'engagement spirituel, en particulier depuis Vatican II.
Oui.
Je pense que ce que vous expliquez peut déconcerter effectivement plus d'un curé et plus d'un...
L'Église, surtout depuis ce qui, à mon avis, a été une catastrophe pour l'Église, pour l'État certainement aussi, mais une catastrophe pour l'Église, la séparation des Églises et de l'État. L'Église s'est désaccoutumée d'une relation particulière et singulière qu'elle avait avec l'État en France, et elle s'est mise à ne plus aimer l'État, et même à s'en méfier. Alors qu'il me semble que l'Église avait beaucoup profité, en réalité, de cette alliance avec l'État, et que l'État lui-même tirait un certain nombre d'avantages de cette alliance. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, dans certains de mes travaux, de montrer que les partisans de la séparation et les adversaires de la séparation n'étaient pas toujours là où on croyait. Qu'il y avait des chrétiens, des figures politiques qui étaient chrétiennes et qui étaient hostiles à la séparation des Églises et de l'État.
Le rapprochement entre les deux figures intervient assez tôt dans la discussion, mais néanmoins pertinent, puisque vous avez effectivement réservé un chapitre sur l'obsession que pouvait avoir le général de Gaulle pour l'unité. Et vous expliquiez dans un essai, non pas dans votre biographie, mais dans un petit essai sur la conception du pouvoir chez Richelieu, que cette conception de l'unité découlait aussi des grandes controverses dogmatiques, la formation du christianisme pendant l'Antiquité. On pense bien sûr au dogme trinitaire. Et que de ce dogme trinitaire, de cet impératif d'amour, de consubstantialité, justement entre les trois personnes de Dieu, découlait justement une conception de l'État et finalement du politique. Beaucoup ont écrit sur la place que pouvait occuper la vie intérieure et la foi du général de Gaulle dans ses actes, effectivement. Et que peut-on comprendre à la France libre si on n'a pas l'image de cette voix qui, effectivement, surgit du tombeau, si on n'a pas, vous réservez plusieurs pages, justement, aux orientations philosophiques du général de Gaulle, à cette idée qu'il faut aller vers au-delà du rapport de force et au-delà de la réalité. Revenons tout de même à ce qui a pu être écrit auparavant sur le général de Gaulle. C'est une histoire, nous n'hésitons pas à le dire, une biographie qui est une biographie intellectuelle et philosophique. On sait que plusieurs ouvrages ont été remarqués ces dernières années. Celui de Julian Jackson, par exemple, dont la critique a dit qu'il était formidable parce qu'il portait un regard extérieur, parce qu'étranger, sur le général de Gaulle. On pense également à l'ouvrage de Jean Lacouture, qui faisait du général de Gaulle quasiment un contestataire, quelqu'un qui était hostile au milieu militaire, quelqu'un qui était finalement un homme de gauche qui s'ignorait. Et puis il y a notre ami, qui est venu plusieurs fois à notre micro, Éric Roussel, ou encore, des essais politiques, Édouard Balladur, Laissons de Gaulle en paix, où il expliquait que le gaullisme était avant tout un pragmatisme, une adaptation aux circonstances, et qu'il ne fallait donc pas vouloir copier de manière conforme ce qu'avait fait le général de Gaulle aujourd'hui, puisque les circonstances avaient changé. À travers cet ouvrage, L'angoisse et la grandeur, c'est aussi une biographie du général de Gaulle, c'est presque finalement une biographie du gaullisme comme personnification d'une idée. Vous nous dites qu'on ne peut pas finalement séparer le général de Gaulle de ce que les néo-gaullistes, les gens du RPR, les gens comme Sarkozy, évoquent avec beaucoup de guillemets la doctrine. Vous nous dites, et vous rapprochez, c'est assez audacieux, c'est assez original de ce point de vue, vous nous rapprochez, le général de Gaulle, oui, d'une pensée politique, oui, d'une philosophie politique, oui, quasiment, d'une doctrine. Le général de Gaulle était bien, au sens le plus haut, le plus fort du terme, tout comme Richelieu, un dogmatique.
Alors, mon ami Bertrand Renouvin m'a donné une formule un jour que je trouve très juste. Il a dit, peut-être que de Gaulle n'avait pas de doctrine, mais il avait une pensée. Et je crois que ça, c'est très profond. Il a une pensée. Il a une pensée qui ne va pas le quitter. C'est pour ça que le thème du pragmatisme, je n'y crois pas beaucoup, dans le sens où on fait du pragmatisme une sorte de liberté qu'on se donne avec toutes sortes de sujets qui, pour De Gaulle, étaient centraux. Parce qu'une fois qu'on a dit que De Gaulle était pragmatique, ben on peut dire qu'on est gaulliste ou gaullien dans tout ce qu'on fait, dit, même si ça n'a qu'un lointain rapport. De Gaulle a une pensée très tôt, et qui ne le quittera jamais. Et il le disait lui-même. Il disait, je peux varier dans mes opérations sur le plan tactique, je peux agir d'une manière ou d'une autre en fonction des circonstances, mais je ne dévie jamais, je ne dévie jamais de mes objectifs, et vous ne me verrez jamais trahir mes pensées fondamentales. Il l'a dit, je ne sais pas s'il a dit exactement ces termes, mais il l'a dit à des proches à plusieurs reprises de manière très claire. Et en particulier, il y a chez De Gaulle une pensée de l'État qui est extrêmement puissante et constante. Si, je ne sais pas, ça a été fait, le retour des la fréquence de certains mots, concepts dans l'œuvre de Gaulle, mais il suffit de lire les mémoires de guerre et plus encore les mémoires d'espoir, qui sont des mémoires inachevées sur la création et les premières années de la Ve République, pour voir que le premier mot qui vient, à part évidemment la France, c'est l'État. Pour lui, l'État, c'est ce qui maintient la France à travers les années et qui maintient la France en toutes circonstances, c'est son armure. Donc, alors tout en pense qu'on entend par État. Pour De Gaulle, l'État, c'est pas simplement l'administration, parce qu'aujourd'hui, en France, quand on parle de l'État, on parle de l'administration. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de personnalités politiques qui se disent quelquefois, ou de manière aléatoire, gaullistes ou gaulliennes, s'aventurent à critiquer fortement l'État, parce qu'en se faisant, ils critiquent l'administration, la bureaucratie, etc. Et pour De Gaulle, l'État, c'est beaucoup plus que l'administration ou la bureaucratie. Pour De Gaulle, l'État, c'est le politique articulé avec l'administratif. Ce sont les deux forces. L'armure, c'est l'armure de la France, son armature morale et institutionnelle est composée de ceux qui gouvernent et de ceux qui administrent. Mais dans son esprit, les deux doivent être soudés, ce qui veut dire que ceux qui administrent doivent être loyaux envers ceux qui gouvernent, qui ont le dernier mot, comme les militaires, d'ailleurs, il fait une analogie entre l'administration et l'armée. Et ça veut dire aussi que ceux qui gouvernent doivent s'appuyer sur ceux qui administrent et les respecter. Et donc, il y a une sorte de force que De Gaulle appelle l'État, et qui pour lui est une structure dominante, et qui doit être forte en toutes circonstances, parce que c'est ce qui permet au pays de traverser des périodes de crise, des périodes difficiles. Et donc l'État est là à la fois pour réagir aux situations de crise immédiate, dans l'urgence, il est là également pour agir sur la durée, pour programmer de grandes politiques publiques, pour donner de grandes orientations, alors avec la planification, avec un certain nombre d'instruments dont De Gaulle se servira quand il sera président de la Ve République et dont il léguera l'usage, en tout cas ses successeurs immédiats. Donc c'est très important de le comprendre. Pour lui, il y a le cycle politique qui s'inscrit dans une durée courte, de 5 ans, c'est le cycle du gouvernement, c'est le cycle de l'Assemblée nationale. Il y a le cycle de l'administration qui est beaucoup plus long, qui échappe à cette chronologie. Pour lui, l'administration, c'est quelque chose d'intemporel. C'est pour ça que De Gaulle est tout à fait attaché au corps constitué. Il considère qu'ils doivent s'inscrire dans la durée, que les fonctionnaires ne doivent pas obéir à une sorte de système de dépouille où on les change tous les 4 matins.
Parler du corps diplomatique.
Par exemple.
Choses qui ont disparu. Ouais.
Et puis, il y a un troisième ordre de temporalité qui est capital pour lui, c'est la temporalité du président de la République, qui s'inscrit sur les 7 ans. Et donc, la Ve République va être fondée sur cette conception du temps qui est fondamentale pour comprendre De Gaulle. Il faut que l'État, c'est dans sa dimension politique et dans sa dimension administrative, puisse s'inscrire dans sur plusieurs niveaux de durée. Le président de la République, qui est élu pour 7 ans, qui définit les grandes orientations, qui est l'arbitre et qui incarne l'État dans les périodes de crise et qui incarne la continuité de l'État. La continuité des 5 ans du gouvernement de l'Assemblée nationale, et pour lui un gouvernement normalement doit durer 5 ans, comme ce fut le cas du gouvernement Pompidou, qui a même au-delà de 5 ans. Et puis l'administration, dont l'action s'étend sur la durée, qui doit être capable aussi d'agir de manière. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a supprimé les corps, on a transformé le septennat au quinquennat, et donc on s'aperçoit qu'on a aplati la puissance publique française sur des temporalités courtes. Ce qui est une forme d'évolution vers des institutions beaucoup plus liquides, beaucoup plus sujettes aux mouvements les plus impromptus de la société, beaucoup plus vulnérables face aux menaces intérieures et extérieures. Donc ça, c'est typiquement une forme de démantèlement de ce qu'est la conception gaullienne de l'État.
Pour revenir sur cette conception gaullienne de l'État, on a compris l'importance qu'il pouvait accorder à la durée. Et vous citez, vous revenez sur les textes fondateurs, tels qu'ont pu être le discours de Bayeux, etc., etc. Toutefois, on peut déjà employer les mots qui fâchent. Cet État, chez le général de Gaulle, est-il conçu de façon sociale, centralisée, finalement ? Autant de mots, effectivement, par rapport auxquels on se réserve parfois une certaine liberté, et qui sont associés au gaullisme, et dont certains ont pu dire qu'ils avaient été associés indûment au gaullisme pour en faire un bonapartisme ou un jacobinisme de droite.
Alors, pour De Gaulle, De Gaulle, incontestablement, est centralisateur. La décentralisation, pour De Gaulle, c'est quelque chose de peu imaginable. Et les réformes qu'il avait envisagées en 1969 et qui n'ont pas abouti parce qu'il a perdu le référendum n'étaient pas des réformes de décentralisation. Les régions qu'il voulait créer, c'était plutôt des régions déconcentrées, où c'était quand même le préfet de région qui avait la main. Simplement, c'était l'idée de créer des régions pour que la société, les forces vives de la société, puissent dialoguer avec l'État. Il était incontestablement jacobin. Il était jacobin dans l'âme, c'est-à-dire pour un pouvoir vertical, très centralisé, permettant d'être actif, réactif, et d'agir à la fois dans l'urgence et dans la durée. C'est la formule que je trouve très belle de Stanley Hoffmann, qui dit ça au moment de la mort de De Gaulle. Il parlait d'un jacobinisme dressé contre la décadence. Donc, il était centralisateur. Est-ce que De Gaulle aurait évolué ensuite ? De Gaulle n'était pas confronté à... n'avait pas des doctrines, justement, immuables. Et autour de De Gaulle, il y avait des gens comme Olivier Guichard, des gens qui pensaient qu'un jour ou l'autre, il faudrait décentraliser, mais sûrement pas de la manière dont l'a fait François Mitterrand. C'était pas une décentralisation par atomisation du pouvoir. S'il y avait eu une décentralisation gaullienne, elle aurait été très structurée et très hiérarchisée, avec des échelons très peu nombreux et très hiérarchisés. Je pense que c'est comme ça que ça se serait fait. Ça n'aurait pas été pour autant un État fédéral, mais je pense que s'il y avait eu un desserrement de l'État jacobin gaullien, ça se serait fait de manière à ce que le pouvoir ne se disperse pas, se répartisse peut-être de manière différente, soit plus proche du terrain, mais qui ne se disperse pas, alors que la décentralisation mitterrandienne a été une décentralisation par atomisation. C'était fait pour ça, d'ailleurs, c'était fait pour liquider l'État gaullien, dont Mitterrand était l'adversaire acharné. Sur le domaine social, oui, De Gaulle était pour un État social, il avait une pensée sociale. Il l'a manifestée pendant la guerre de manière très claire, après la guerre, au discours de Bagatelle, et puis sous la Ve République, avec sa pensée sur la participation. De Gaulle ne voulait pas de la lutte des classes. Il considérait que la société ne devait pas être en guerre avec elle-même. Il était convaincu que le capitalisme était une demi-civilisation, qu'il était marqué par une forme d'infirmité morale, et qu'il serait confronté à ses propres contradictions le jour où les idéologies disparaîtraient. De Gaulle pensait que le jour où le communisme disparaîtrait, il était convaincu que le communisme disparaîtrait, le capitalisme se retrouverait, non pas triomphant, mais face à ses propres contradictions, et notamment à toutes les contradictions qui naissent de la technologie et de l'aliénation du travail par les technologies. Donc De Gaulle, alors il y avait un peu de pensée sociale chez De Gaulle qui venait du christianisme, ça c'est certain, mais il y avait aussi d'autres influences. Il était aussi influencé un peu par le New Deal, par toute une pensée sociale qui venait de la Troisième République. Ça ne veut pas dire que De Gaulle était partisan d'une sorte d'État-providence ou d'État nounou monstrueux, mais il considérait en tout cas qu'il fallait un État social. C'est lui quand même qui a créé la sécurité sociale, qui à l'époque n'était pas complètement étatisée comme elle l'est devenue, et qui était plutôt fondée sur l'idée de solidarité que sur l'idée d'assistance. Donc voilà, simplement, et tout dépend ensuite de la façon dont on conçoit l'État social et comment on arrive à le sauver, mais je pense que chez De Gaulle, c'était très important, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas se dire gaullien aujourd'hui si on n'a pas une pensée un peu dynamique de l'État, et si on n'a pas quand même une pensée sociale, ce qui ne veut pas dire que c'est une pensée socialiste ou une pensée ultra-conservatrice en matière de prestations sociales. Mais je pense qu'on ne peut pas se dire gaullien si on n'aborde pas ces sujets avec un petit peu, de manière un peu dynamique.
Et justement, on voit un peu le cœur du dilemme et l'opportunité aussi de l'ouvrage. Si l'on parle du gaullisme comme d'un pragmatisme, c'est qu'on a tendance à dire que cette sécurité sociale, ces réformes administratives, cette conception très verticale, très autoritaire de l'État, était d'abord un fait de circonstance. Et l'intérêt d'une chronologie, c'est justement de reprendre dans quelles circonstances ont été créées ou instituées ces institutions.
La libération.
La sécu, typiquement. On a beaucoup dit que cela procédait moins d'une pensée d'un gaullisme social que d'une situation historique. Là, l'obligation qu'il avait de rallier à lui les organisations syndicales et politiques de la résistance pour asseoir sa légitimité au sein du CNR, et qu'il s'agissait moins d'un acte d'adhésion que finalement de l'arbitrage d'un rapport de force. pareillement pour la conception verticale de l'État, dans la mesure où il a eu à affronter des circonstances tout à fait dramatiques, guerre d'Algérie, sortie de la guerre mondiale, etc. Il a institué cette cinquième République qui était davantage là pour l'époque que pour l'éternité. C'est ce qui donne du crédit à cette idée d'un général de Gaulle pragmatique, d'un général de Gaulle qui s'adapte, d'un général de Gaulle qui affronte l'histoire. On pourra revenir sur la formation intellectuelle du général de Gaulle dès ses plus jeunes années. Il y a des chapitres qui sont éclairants. Mais d'ores et déjà, vous nous dites bien que justement, tout ce qui a été institué par le général de Gaulle procède d'une pensée très profonde, très ancienne, quasiment d'origine familiale et de lecture de l'essence.
Absolument. Je ne crois pas du tout au compromis historique du Parti communiste. Je ne crois pas du tout que l'œuvre du gouvernement de la Libération soit le fruit des circonstances, pour la pure et simple raison que de Gaulle a dit le contraire dans tous ses écrits. Lorsqu'il fonde le Rassemblement du peuple français, il y a des documents, des instructions, des directives qu'il donne, alors qu'il n'est plus au pouvoir, qui sont très claires et où il prêche pour une politique sociale. Et sous la Ve République, ça sera la raison d'un certain refroidissement avec Georges Pompidou, parce qu'en 66-67, c'est pour ça qu'au moment de l'élection de 67, de Gaulle envisage de nommer un autre Premier ministre. Il pensait que Pompidou était là pour une certaine période, pour une certaine politique, 62-67, il aurait voulu... les circonstances ont fait qu'il a gardé Pompidou. Mais il y a un dialogue assez intéressant entre Pompidou et De Gaulle. Pompidou qui veut faire la participation, qui va beaucoup plus loin que la participation au bénéfice de l'entreprise. C'est une véritable association des salariés au fonctionnement de l'entreprise à laquelle pense De Gaulle. Et Pompidou est contre, parce qu'il ne comprend pas très bien, ça lui paraît nébuleux, les syndicats aussi. Ils se méfient de ce président de la République un peu militaire qui s'intéresse trop à la question sociale. Et il y a un dialogue surréaliste entre Pompidou et De Gaulle. Et Pompidou dit à De Gaulle, ce n'est pas le moment de faire des mesures sociales, de s'attaquer au social, ce n'est pas le moment. L'économie. Résultat, on a mai 68, qui se transforme presque aussitôt en mouvement social. C'est un mouvement étudiant qui devient un mouvement social. Pompidou est obligé de lâcher par les accords de Grenelle beaucoup plus que ce que De Gaulle lui demandait de concéder. Et les accords de Grenelle ne mettent pas fin à mai 68. Il faut que De Gaulle revienne après sa disparition à Baden-Baden, revienne pour reprendre le contrôle de la situation pour que mai 68 se termine. Donc toute la vie de De Gaulle montre qu'il s'agit d'idées qu'il avait en propre. Et il y a vraiment beaucoup de textes, discours, mais aussi textes, notes, qui montrent qu'il est obsédé par cette idée qu'il est bien sûr acquis à l'idée de l'économie de marché. À aucun moment il n'envisage une vision marxiste de l'économie. Mais il considère qu'il y a nécessité pour développer un pays d'un rôle important de l'État dans l'économie, dans les orientations de l'économie, à travers le plan, à travers un certain nombre de mesures. Et il est aussi convaincu qu'il faut qu'il y ait un État social, qu'il y ait une solidarité organisée. Tout ça, c'est quelque chose qu'il a chevillé au fond de lui-même.
C'est donc une action qui est inspirée au sens le plus fort et peut-être le plus haut du mot. Et pour le comprendre, l'intérêt d'une biographie aussi épaisse, si sympa, c'est justement de revenir à la source. L'enfance du général de Gaulle, la famille du général de Gaulle. Alors des choses qui peuvent paraître tout à fait anecdotiques, tout à fait contingentes, mais qui apparaissent comme aussi fondatrices dans sa formation. On a un peu du mal à imaginer qui étaient les De Gaulle. Ça part un peu dans tous les sens. On parle parfois d'un père qui aurait été à la fois un catholique, intransigeant, mais en même temps quelque peu de réfusard. Paul-Marie Couteau parle d'une famille qui fermait les volets le 14 juillet. Alain Larcan parle d'une espèce de jansénisme un peu demi-noble, bourgeoisie améliorée, genre de gens de culture. On parle d'un père qui, effectivement, était un puits de science, grand professeur. On parle même d'un barde de Gaulle en Bretagne, je crois, un cousin qui aurait été quelque chose comme
L'oncle Charles.
L'oncle Charles. En tout cas, ça a l'air d'être un milieu qui est propice aux interrogations, aux ruminations cérébrales, aux lectures. Où est-ce que naît qu'est-ce que la famille de Gaulle?
Lui, il en parle. Il parle peu de lui, contrairement aux hommes politiques d'aujourd'hui.
Oui, vous dites qu'il est très pudique.
Au début du Mémoire de guerre, il parle de lui et de sa famille pendant deux pages. Mais il dit tout. Il dit « Ma sœur et mes frères, et moi-même, nous avons grandi en éprouvant une sorte de fierté anxieuse envers la France. » Fierté anxieuse envers la France. C'est-à-dire qu'ils étaient élevés, ils ont grandi dans une sorte d'amour pour la France, patriotique, pour son histoire, passionné par l'histoire et la grandeur de l'histoire de France. Et l'angoisse, la fierté, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre l'angoisse, parce que c'est un mot qui revient beaucoup chez De Gaulle, qui est même plus fort qu'anxiété. l'angoisse que cette France, ce beau pays, cette puissante histoire, ne sombre, ne décline ou disparaisse. Et je crois que c'est ça l'éducation des De Gaulle. Je ne crois pas que c'était des monarchistes étriqués. Il y avait un amour de la patrie qui était certain, un attachement à la religion catholique qui était tout aussi certain. Mais enfin, le père De Gaulle, il avait été fonctionnaire, il a été professeur, il était d'une grande érudition, c'était un homme très cultivé, mais qui était pénétré de l'amour de la France. Et je crois que ça allait au-delà de toute chose. Et puis, les influences qui se sont exercées sur De Gaulle dans sa jeunesse, on les connaît. C'est en particulier l'influence de Peggy, de Barrès très certainement, mais l'influence de Peggy. Et Peggy, que dit Peggy ? Peggy dit « la République, c'est notre royaume de France ». Pour Peggy, la question de la monarchie, de la République n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui fait la grandeur de la France. Et pour Peggy, je crois que ce sera vrai pour De Gaulle aussi, la République, c'est la res publica, c'est la chose publique, dont la monarchie est porteuse, mais dont la République comme régime peut elle-même devenir porteuse. Et pour De Gaulle, la monarchie, elle se poursuit sous la République à travers l'administration. C'est la monarchie administrative qui était héritée de l'Ancien Régime, que Napoléon a refondé pendant la période consulaire et qui est le soubassement des institutions françaises jusqu'à la Ve République. Donc je crois que, en fait, l'environnement mental de De Gaulle, c'est un attachement viscéral à la France, à son histoire, à sa grandeur et une inquiétude tout aussi viscérale face à sa possible décadence. Et je crois que ça suffit à définir l'éducation qu'il a reçue.
Un journaliste du Figaro nous avait traumatisés, peut-être vous et moi, en écrivant un jour « Il est peu probable que notre société nous redonne un De Gaulle ou même un Pompidou ». En vous lisant, cher Arnaud Tessier, on a aussi l'impression que certes cet homme providentiel, apporté donc par la Providence, surnaturel, était aussi le produit de son époque. Vous parlez de cette angoisse, elle est finalement générationnelle. C'est aussi d'une certaine manière l'angoisse fin de siècle. Société qui avance comme elle n'a jamais avancé au cours de la décennie 80-90, c'est aussi l'angoisse d'un pays défait après 1870, une défaite que personne n'explique, que personne ne comprend. Et c'est aussi un élève, un fort antenne, dont il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Même le major de Normale Sup, quelqu'un qui traduit Corneille en grec à 14 ans, même pas un fort antenne, un élève brillant, intuitif, un caractère en plus un peu rebelle, une âme poétique et littéraire. On a aussi l'impression d'un général de Gaulle qui est aussi le produit d'une époque qui atteignait à l'époque le climax de sa civilisation. Vous parlez beaucoup du thème de la culture et de la civilisation dans l'ouvrage Général de Gaulle, mais on voit à quel point il en a bénéficié. On voit à quel point il a bénéficié de l'excellence scolaire, de cette culture familiale, de l'horizon religieux, également de ce climat d'angoisse, etc. Le général de Gaulle était aussi, finalement, à sa façon, un homme de sa génération.
Oui, bien sûr, c'est la génération des Gâtons, c'est la génération de ceux qui grandissent à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui ont le souvenir de la défaite des 1870 et qui attendent le grand règlement avec l'Allemagne. C'est le texte de Peggy qui dit « Nous sommes un peuple de vaincus ». Mais pas pour s'y résigner. Il dit « Nous sommes des vaincus. Il faut surmonter cela parce que c'est ce que nous portons dans notre chair et dans notre âme depuis 1870. » Donc, De Gaulle est l'homme de cette génération. Mais ce qui fait la singularité de De Gaulle, et qui... Je ne sais pas si on aura un jour quelqu'un comme De Gaulle. C'est comme Jeanne d'Arc. Il y a des figures Richelieu, il y a des figures... Ou même Clémenceau, sur un mode peut-être pas aussi complet et aussi puissant, mais quand même. Peut-être qu'il y aura une grande figure qui émergera, mais je pense que ces figures n'émergent que parce que c'est pas seulement les circonstances, c'est pas seulement la Providence, ce sont des figures qui sont portées par une volonté extraordinaire. Et ce qui m'a frappé chez De Gaulle, c'est cette volonté qui ne le lâche jamais. Il a des moments de doute et d'hésitation. Il l'a dit de son vivant, il l'a confessé après 68 dans un entretien télévisé avec Michel Droit devant tous les Français. Où il a dit, voilà, il y a eu plusieurs circonstances dans ma vie, en 40, en 46, etc., où j'étais tenté de tout laisser tomber. Il le dit, c'est pour ça que ça m'amuse toujours quand on s'interroge sur les motifs de son départ à Baden-Baden en mai 68. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a voulu s'en aller? Est-ce que c'était une machination pour reprendre le contrôle? Il a dit qu'il a voulu réfléchir, qu'il a envisagé toutes les hypothèses, il ne s'en est pas caché. Et il a envisagé de partir. Et finalement, j'ai pris mes résolutions. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a un peu hésité, qui peut envisager toutes sortes d'hypothèses de son propre aveu, mais qui prend ses résolutions. C'est cette volonté qui est fascinante Et c'est pour ça que je dis souvent ça, ce qui, au sortir de mon travail sur De Gaulle, de ces années que j'ai passées à travailler sur De Gaulle, toujours plus fasciné à mesure que je travaillais sur lui, ce qui me frappe, c'est cette humanité. Parce qu'un homme qu'on décrit comme glacial, froid, ayant peu de sentiments, c'est une extraordinaire preuve d'humanité que d'être capable d'être porté par une telle volonté, dont il est évident que ce n'est pas une volonté d'ambition personnelle. À aucun moment, personne ne peut suspecter, même ses pires ennemis ne diront pas que De Gaulle avait une telle, tel appétit de pouvoir, des honneurs, de la richesse, que vraiment, personne n'a jamais prétendu que De Gaulle ait obéi à une ambition ordinaire. Et il lui a fallu une volonté incroyable pour rester arc-bouté sur un certain nombre de choses et pour pousser son destin à chaque fois, comme il l'a fait, je le disais tout à l'heure, début juin 40, quand il a littéralement tordu le bras de Paul Reynaud pour qu'il le fasse entrer au gouvernement, comme il le fera en d'autres circonstances. Cette volonté qui le porte et qui est dictée par une ambition tout à fait noble, qui est une ambition à caractère national et pas une ambition purement personnelle, moi, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel et ça le rend très humain. Parce que c'est une drôle de vie, quand même, qu'il a dû avoir.
L'ouvrage peut déconcerter, puisque vous maintenez l'idée d'une ambition hors norme. Et beaucoup, on pense par exemple à l'ouvrage qui est en fait un pamphlet de Dominique Vénère, en grande partie de mauvaise foi, a voulu dire que le général de Gaulle était très ambitieux et que cette ambition l'a motivé pour faire de grandes choses, mais que ça restait un personnage doux, un personnage complexe, qui effectivement a pu congédier par exemple la résistance ou de grands serviteurs passionnés. Et quelque part, on peut vous suivre dans cette idée d'abnégation, dans cette idée de, également, vous le revenez à plusieurs passages de l'ouvrage, un charisme qui pétrifiait. C'est-à-dire que même à l'époque, le fait qu'il y ait par exemple une biographie dès 42 ou 43 de Philippe Barrès, le fait qu'à l'époque, il paraisse déjà comme un personnage hors norme. Dès 41, dès 42, on s'aperçoit que quelque chose est en train de se passer, que ce quelque chose n'est pas de l'ordre du commun, justement. Et ce n'est pas une reconstruction a posteriori, comme on le dit souvent en histoire à propos de tous les événements.
Non, non.
On dit que Bouvines est a posteriori, que tel événement est a posteriori, que Richelieu est a posteriori. C'est quelque chose dont les contemporains avaient la sensibilité immédiate, que quelque chose d'extraordinaire se passait. Mais quelque part, et c'est l'habileté du biographe, il me semble, cela l'humanise, puisque il pouvait être gênant en société, notamment à Londres. On imagine une société londonienne pleine de duplicité, avec des Anglais qui prennent la politique comme un jeu, un peu comme les jeux financiers ou les jeux spéculatifs, et qui, après avoir fait 10 ans, se retournent vers effectivement le grand commerce. Et vous citez une espèce de peau de vache, désolé pour la dame, mais nommée Mary Borden, justement.
C'est pas une peau de vache, parce que c'est une romancière.
Oui. Oui, qui le trouve particulièrement terne, absolument incapable de parler d'autre chose que de la grandeur, que de son ambition, que de politique. Dans les dîners, on imagine vraiment mal la scène. Un jour, raconte Littleton, lors d'un dîner à ma villa, Moira, on pense à Julien Green, lui demanda quels étaient ses centres d'intérêt quand il ne pensait pas à la guerre ou à la politique. Il esquissa un maigre sourire et répondit « Madame, je regarde le système solaire ». Alors vous dites ça dans un dîner, je pense que ça jette un léger froid.
Oui, oui, et Mary Borden, qui était romancière, mais qui était la femme du général Spears, qui était l'officier de liaison de Churchill et qui connaissait évidemment, travaillait avec De Gaulle de très près au début de la guerre. Ils l'ont invité à plusieurs reprises chez eux et elle raconte que son premier contact avec De Gaulle était très raide parce que De Gaulle était froid. Mais petit à petit, alors elle dit que quand elle essaie de se souvenir de lui, elle n'arrive pas à voir ses traits parce que ses traits étaient mobiles, mais elle se souvient de sa voix. Et effectivement, elle le décrit comme quelqu'un de très froid, rugueux, très fermée, alors qu'elle revoit les autres hôtes qui étaient à table. Mais elle explique aussi qu'elle finit par comprendre le personnage et à un moment donné, elle dit, en fait, cet homme est comme ça parce qu'il porte, il a pris en charge tout le fardeau de son peuple, il porte la croix de la France et que donc il est à cran dès qu'il s'agit de la France et que c'est ça qui le rend impitoyable et très dur et très revêche, y compris avec ceux qui veulent le soutenir. Et puis, en même temps, petit à petit, une forme d'admiration naît. Elle voit De Gaulle qui prend à part son fils, le fils des Spears. Ils parlent tous les deux dans un coin, c'est le soir de Noël, à la campagne. Et puis, le jeune garçon revient voir ses parents et dit « Je veux aller me combattre avec le général De Gaulle. » Donc, elle est frappée par ça. De Gaulle, en particulier, en parlant à ce jeune homme, à ce jeune Anglais, eh bien, il le convertit en... On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et elle est très frappée aussi par un échange très humain qu'elle a avec lui. À un moment donné, Enfin, quelqu'un à table dit à De Gaulle, général, une dame qui lui dit est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que la guerre sera gagnée? Et De Gaulle répond Madame, je pense que la guerre sera gagnée, j'en suis certain. Ma seule angoisse, c'est qu'elle dure trop longtemps, car plus elle durera, plus la France sera souillée. Et je trouve que même à travers les réserves du personnage que retrace Marie Borden, je trouve qu'on voit l'humanité de De Gaulle. C'est pour ça que De Gaulle, pendant toute sa vie, trouvera qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas le droit de perdre du temps. Qui souffrira sous la 4e République de voir ce temps que l'on perd, la France qui s'abaisse, la France qui s'enlise. C'est cette idée du temps perdu. Et que, voilà. Et je pense que ça aussi, ça va dans le sens d'une forme d'humanité de De Gaulle qui est difficile à comprendre au premier abord. Même François Mauriac, qui l'admirait énormément, son premier entretien en tête-à-tête avec De Gaulle, il en est ressorti. C'est un cormoran, c'est pas un homme, c'est un cormoran, c'est une sorte de grand oiseau, un peu. Voilà, un homme un peu...
Un albatros.
Voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'il admirait De Gaulle.
Que ses ailes de géant n'ont pas empêché d'aller à Londres. Il y a un De Gaulle blessé, effectivement. Un De Gaulle qui, finalement, a mal à la France. Son pays lui fait mal, pour reprendre les vers d'un poète qu'il ne faut pas forcément citer. Et parfois, vous reprenez ce De Gaulle kantorowiczien dans vos notes de bas de page. Un exemple, typiquement. Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Malraux s'adresse à un De Gaulle, qui est le De Gaulle de la guerre, et à côté, il y a le De Gaulle président, dans son uniforme dépouillé, il est mal à l'aise, il est mal engoncé, il y a déjà un double corps, presque, du général De Gaulle, pendant sa présidence.
Oui, je recommande beaucoup aux auditeurs, c'est un film qu'on peut voir de Lina sur Internet, qui est saisissant, quand je l'ai vu dans son intégralité. Oui, on voit De Gaulle presque un peu gauche dans... avec son grand manteau, son uniforme et son grand manteau, il y a Malraux qui parle. Alors, il y a De Gaulle, Pompidou, tout le gouvernement, toutes les autorités de l'État, un froid de canard, un vent qui souffle. Et Malraux commence en disant « Monsieur le Président de la République ». Tout d'un coup, on voit le général De Gaulle qui écoute. Et puis, il raconte l'histoire de Jean Moulin, et c'est l'histoire de De Gaulle. Et c'est seulement 20 ans après la fin de la guerre. Et c'est extraordinaire, parce que c'est l'histoire du général De Gaulle qui est le président de la 5e République. Et on voit que De Gaulle est comme, pas écrasé, mais qui, voilà, c'est inouï. Quand on a eu une panthéonisation comme ça, on trouve beaucoup de panthéonisations bien futiles à côté. Vous imaginez cette panthéonisation-là, hein, où le personnage principal de l'histoire qui est racontée est là, et ne dit rien. Il n'ouvre pas la bouche, c'est Malraux qui parle.
En statue, en effet.
De Gaulle ne prend pas la parole.
Oui. Et comme vous l'avez dit en début d'intervention, en statue. Et la statue, oui. Là, trouve vraiment, pour le coup, son prêtre statue de la France. De Jean Daniel, dans Le Nouvel Observateur, se moquait des gaullistes comme des vestales de l'État-nation, comme si c'était une forme désuète qu'il fallait nécessairement abolir. Il y a un mot qui revient, évidemment, dans votre ouvrage, c'est le mot d'incarnation. Et je pense qu'après tout, c'est un thème récurrent dans les biographies. Ces corps, le corps du général de Gaulle, le corps de Richelieu, à sa façon... pour en dire deux mots, le corps de Lyautey, furent des corps de l'État, finalement.
C'est une citation que je cite, c'est une phrase que je cite toujours, qui depuis d'ailleurs, j'ai dû avoir un peu d'influence sur certaines personnes, car je l'ai vu citée par d'autres, qui est à la fin du testament politique de Richelieu, et c'est une phrase qui pour moi est... de Richelieu qui pour moi est la définition même de ce qu'est l'État, la conception de l'État, du service public, toute la conception de la politique en France, d'une certaine conception morale élevée de la politique. Cette phrase à la fin du testament politique où Richelieu s'adresse à Louis XIII et lui dit, l'incite à avoir la fermeté nécessaire et à prendre des décisions, à ne jamais s'abstenir de décider. Richelieu explique que quelquefois, ne pas décider, c'est pire que de commettre un crime. Que le devoir de l'homme d'État, c'est de décider. Et il y a cette formule extraordinaire où Richelieu dit ceux qui se sauveraient comme personne privée se damnent parfois comme personne publique. Ceux qui se sauveraient comme personne privée se damnent parfois comme personne publique. Il y a un historien anglais, Eliot, qui, avec une mauvaise foi ou un manque d'intuition étonnant, a cru y voir une éloge de la raison d'État. C'est pas du tout ça, c'est le contraire. Richelieu ne dit pas qu'il faut que l'homme d'État s'affranchisse de la morale. Il dit au contraire que l'homme d'État doit obéir à une morale qui est d'une essence supérieure. Il y a la personne publique et il y a la personne privée. Comme personne privée, on peut être gentil, s'entendre bien avec ses voisins, être gentil avec sa famille, etc. Mais quand on a charge d'âme, qu'on soit évêque ou homme d'État ou ministre ou président de la République ou souverain, on est une personne publique et on a donc des exigences morales d'une autre nature qui demandent quelquefois à être ferme, quelquefois dur, ce qui est bien différent de la cruauté. Et c'est ça, la morale de Gaulle, c'est ça. C'est une personne publique et la personne privée ne doit pas interférer avec la personne publique. Et c'est ce qui a donné le sentiment quelquefois que de Gaulle était très dur. Il y a cet épisode que je cite dans le livre, je crois, la rédaction des Mémoires d'Espoir, à la fin du chapitre sur la guerre d'Algérie, de Gaulle avait mis à la fin, conscient de ce qu'avait été la conclusion terrible de la guerre d'Algérie, des souffrances que ça avait entraînées, notamment pour les Français d'Algérie, il avait mis « et que Dieu me prenne en pitié ». On le sait de manière certaine, par deux sources concordantes de son entourage. Il l'a retiré, finalement, et je comprends pourquoi il l'a retiré. Parce que ce n'était pas conforme à cette conception de la morale. Il n'avait pas demandé à Dieu de prendre en pitié. Il avait agi comme il le devait, comme personne publique. Mais il était conscient que, comme personne privée, c'était un petit peu lourd à porter. Et ça rappelle tout à fait ce que Richelieu aurait dit, et je crois qu'il l'a vraiment dit, en tout cas il l'avait dit en d'autres circonstances, à son confesseur au moment de mourir, qui lui demandait s'il pardonnait à ses ennemis. Ce qui est une façon de lui demander s'il avait des remords, en fait. Et Richelieu avait répondu « Je n'ai eu d'autres ennemis que ceux de l'État ». C'est la même chose. Mmh. Donc, il y a...
Vigny le cite dans sa mare. Les ennemis sont les ennemis de l'État.
Oui. Ne pas comprendre que... On ne peut pas comprendre De Gaulle, ni toute une tradition française du pouvoir, la bonne, la belle, la grande, toute une dimension morale du pouvoir en France, si on ne comprend pas qu'une personne publique doit obéir à une morale supérieure à celle de la personne privée. Ce n'est pas le tweet, ce n'est pas l'empathie émotionnelle qu'on connaît chez les hommes politiques depuis 20 ans.
Mais effectivement, sans dégrader sur peut-être le culte de l'émotivité, Général de Gaulle s'est aussi heurté dans toute sa carrière. Alors, nous sommes obligés d'éclater la chronologie, puisque la discussion prend un tour différent, mais peu importe. Général de Gaulle s'est aussi heurté sur une autre conception de l'honneur et du politique, qui peut-être admettait plus des rapports d'homme à homme, de fidélité personnelle. On pense bien sûr à l'affaire algérienne. Derrière l'affaire algérienne, vous aviez certes une réflexion politique, l'éclatement démographique, la place de la France dans le monde, mise à bord de l'ONU, mais vous aviez aussi, chez les défenseurs de l'Algérie française, une certaine conception de l'honneur en politique. Conception du serment, de la parole donnée, qui, du même coup, peut être narcissique d'ailleurs, puisqu'on se rappelle des événements terribles du putsch des généraux, de l'OS. Cette conception qui finalement appartient à ce qu'on appelle la droite légitimiste, qui est celle du serment, qui est celle justement d'une très très vieille culture politique, et qui distingue le général de Gaulle, qui a davantage une culture politique de l'État. On pense à Machiavel, à Richelieu, vous parlez de Bonaparte, l'ouvrage que vous avez consacré à Richelieu comme étant un théoricien du politique, regorge de ses penseurs. Vous parliez de Guibert, vous parliez de... Alors, pas l'auteur du 20e, mais l'auteur du 18e.
Le comte de Guibert.
Pierre de Bérulle, etc., qui commence à élaborer cette idée qu'il puisse y avoir des mots qui ont été dévoyés, des raisons d'État, des coups d'État, au sens de coup de majesté, au sens de restauration symbolique du politique. Le général de Gaulle a dû affronter un peu cette vieille droite qui pensait l'État d'abord comme des rapports interpersonnels fondés sur l'honneur, sur la fidélité et sur la parole donnée.
Peggy en parle beaucoup. Dans Victor Marie Comte Hugo, je crois, enfin dans plusieurs textes de Peggy, il en est question. Parce que Peggy aime beaucoup l'honneur du duel, l'honneur noble traditionnel. Mmh. Et en même temps, il y a chez Peggy une admiration pour Richelieu, pour l'homme qui va interdire les duels, parce qu'il incarne une morale d'État dont Peggy sent la nature révolutionnaire. Et c'est extraordinaire. L'affaire des duels est très intéressante. Pour Louis XIII et pour Richelieu, les nobles qui se battent en duel au nom de l'honneur sont en fait des gens qui dévoient l'honneur. L'honneur de la noblesse, pour Louis XIII et pour Richelieu, l'honneur de la noblesse, c'est d'accomplir son rôle social en vertu duquel elle a des privilèges. Et son rôle social, c'est de porter l'épée, non pas pour régler des affaires d'honneur personnel, mais de porter l'épée exclusivement au service du roi, au service de l'État, au service de la France. Et les plus acharnés à vouloir punir les duels, c'était l'Église. Il y a un texte, une adresse du clergé de France, des évêques de France à Louis XIII, qui date de 1625, où ils disent « Abattez les hôtels de la mansuétude, soyez impitoyables avec les duels, car on ne doit pas verser le sang pour des affaires personnelles, le sang doit être versé uniquement pour Dieu, pour le roi et pour le bien public. Et donc, ils incitent Louis XIII à être implacable. Et je crois qu'effectivement, c'est cette confusion entre l'honneur individuel et l'honneur véritable. On le voit au moment du putsch. Je pense qu'il a précipité les choses. De Gaulle, à un moment donné, avait caressé l'espoir qu'on puisse arriver à une solution qui permette de ménager une sortie relativement moins dramatique de l'Algérie. Ce qui a tout bouleversé, c'est le putsch des généraux qui l'a mis hors de lui, d'où cette apparition d'uniforme et ce discours. Et c'est très intéressant d'écouter le discours de Gaulle, hein. C'est le 27 avril, je crois, 61, où il dit aux Français, « voulez-vous que nous laissions perdre tout ce que nous avons accompli depuis 20 ans pour le redressement de la France ?» Donc, il s'inscrit dans la durée, on fait, est en train d'être compromis par la stupide aventure d'Algérie, et il parle des officiers ambitieux et fanatiques qui ne voient le monde qu'à travers leur frénésie. Et donc, ils ne comprennent pas le monde vers lequel la France doit aller avec un nouveau système de puissance. Et il dit, alors que c'était leur devoir et leur honneur de servir et d'obéir. Donc, on voit que c'est ça qu'il a mis hors de lui et qui fait que la conclusion dramatique de l'affaire d'Algérie s'est précipitée. Pour lui, l'honneur, en l'espèce, c'était d'obéir, même si c'était dur d'obéir, même si c'était renoncer à beaucoup de choses. Et il ne pouvait pas, lui, le confesser. Il lui en souffrait très certainement. Il l'a dit à des proches, qu'il a souffert personnellement du dénouement de l'affaire algérienne. Mais il considérait que, voilà, ceux qui se sauveraient comme personnes privées se damnent comme personnes publiques. Il pensait que, comme personne publique, il devait obéir à une morale qui était des sens supérieurs. Et il attendait de ceux qui étaient sous ses ordres qu'ils en fassent autant. Alors, ça peut paraître très dur. Et ça a entraîné pour De Gaulle des haines féroces, mais je le comprends. Et j'ai eu des échanges avec un ami qui était plus âgé que moi, qui est décédé malheureusement, qui avait été dans l'OAS et qui était, je me souviens, à ses funérailles, j'ai même vu une sorte de clin d'œil à mon intention. Il avait le drapeau de l'OAS sur son cercueil que j'ai béni avec beaucoup d'allant. Et je lui avais raconté cette histoire du passage que De Gaulle avait enlevé. Enfin, je vais expliquer tout ça. Et sur que Dieu me prenne en pitié, il avait été un peu saisi. Il comprenait. On en avait souvent parlé. Il comprenait beaucoup mieux la position de De Gaulle à la fin de sa vie.
Vous voulez dire que le gaullisme est finalement une expérience de décentrement individuel. L'on va au-delà des susceptibilités, des jalousies, des liens de fidélité, de cette vieille vendetta, justement, une conception de l'honneur dont vous nous dites qu'elle est un petit peu superficielle et peut-être quelque part narcissique, et puis un décentrement aussi intellectuel. Derrière les grands textes fondateurs du gaullisme, l'appel du 18 juin, c'est un au-delà du rapport de force géopolitique. Le discours de Bayeux, c'est un au-delà du rapport de force interpartisan et politique. Tous les grands discours peuvent finalement invoquer cet effort d'intelligibilité. La réalité n'est pas forcément dans ce que l'on perçoit immédiatement, un serment, un rapport de force, un état immédiat de champ de bataille, mais est forcément quelque chose que l'on doit comprendre, que l'on doit s'efforcer. Vous parliez d'une inspiration quasi idéale. Le gaullisme nous apparaît finalement, au gré de la discussion, presque comme même pas comme une doctrine, quasiment comme une métaphysique.
Oui, avec une volonté d'épouser le réel, le plus réel.
Pas antinomique avec la métaphysique.
Non, pas du tout. Et en effet, c'est pour ça que c'est une des critiques aussi que je faisais au film quand je l'ai vu, après l'avoir vu. C'est qu'on a traficoté le discours du 18 juin pour ajouter des éléments un peu littéraires sur le soleil dans la nuit, etc. Et à mon avis, c'est une grave erreur, parce que le discours du 18 juin, c'était pas du tout...
Très pragmatique.
C'était un discours très simple.
Oui, c'était très simple. Voilà,
la réalité, c'est que la guerre est une guerre mondiale, que les États-Unis entreront en guerre, que la guerre finira par être gagnée, et l'enjeu pour nous, c'est que la France participe à la victoire au lieu de rester un pays défait et occupé. Et c'est ça que De Gaulle dit. Et en fait, c'est lui qui a le sentiment d'être réaliste. Et ceux qui ne sont pas réalistes dans son esprit, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer à faire vivre la France après l'armistice, une France qui est occupée au 3/5e.
Bobino.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
De temps, là. Nous étions effectivement dans le De Gaulle de la guerre, nous étions sur De Gaulle intellectuel, nous étions sur De Gaulle de la formation. Il y a plusieurs vers qui relèvent un peu le récit historique. Vous évoquiez la poésie du 18 juin, vous-même versé dans la poésie avec quelques vers de Pierre-Jean Jouve, par exemple, auteur un petit peu oublié, mais qui émouvait, je crois, beaucoup le général De Gaulle. Les controverses, par exemple, entre François Mauriac et André Malraux, jalousie autour de la préférence qui aurait accordé le général De Gaulle, qui allait effectivement plutôt à André Malraux qu'à François Mauriac. Et puis il y a des apparitions, parfois, dans la biographie. René Girard, Jacques Maritain. Autant d'intellectuels qui viennent garnir, effectivement, le parcours du général de Gaulle. Vous avez, finalement, on parlait de l'ouvrage d'Alain Larcan sur la formation du général de Gaulle, vous avez presque, finalement, écrit une biographie intellectuelle et politique du général de Gaulle.
Oui, c'est ce que j'appellerais presque une biographie intime. Le plus intime possible.
Oui, au sens, l'intimité psychique.
Voilà. Pas l'intimité qui nous est fermée, de toute façon, puisque même...
À l'époque.
Dans aucune lettre, rien, on ne trouvera jamais de confession de Gaulle sa vie la plus intime. Mais par contre, d'essayer d'entrer dans l'intimité de sa pensée, de la formation de sa pensée, d'essayer de comprendre la vérité psychologique de son comportement et de ses réactions. Et ça, on peut le faire. Quelquefois, il faut même... J'ai fait quelque chose je ne suis pas le seul, je sais que j'en ai parlé avec un de mes amis, Frédéric Rouvillois. Oui. Quelquefois, il faut aller au-delà des influences qui sont avérées ou avouées. J'ai essayé de déceler des influences intellectuelles ou politiques qui avaient pu s'exercer sur De Gaulle sans qu'il les mentionne forcément explicitement, mais qui me paraissent évidentes. Je parle dans mon livre de ce grand texte que publie juste avant la guerre le mari de Virginia Woolf, Leonard Woolf, qui est lui-même écrivain, qui est un homme de gauche, mais anglais, un socialiste anglais, mais un socialiste extrêmement critique sur l'Union soviétique, ce qui à l'époque était quand même en Angleterre pas forcément toujours bien vu, et qui fait une description du capitalisme qui m'a rappelé tellement ce que De Gaulle écrira ensuite sur le capitalisme que je ne peux pas m'empêcher de penser que quand il était à Londres, De Gaulle est lu ou entendu. Voilà. C'est lui qui crée cette idée de demi-civilisation. Qui dit que le capitalisme, parce que Leonard Woolf ne condamne pas du tout complètement le capitalisme, mais il dit simplement que le capitalisme recèle ses propres faiblesses, ses propres démons, et qu'il pourrait... Leonard Woolf dit en substance, c'est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il écrit ça en août 1939, il dit une guerre abominable va arriver, on va avoir des souffrances abominables, on va connaître des tragédies atroces, mais on finira par triompher du nazisme, on finira par triompher du fascisme. Mais nous avons déjà à l'intérieur même de nos frontières des contradictions, des menaces qui peuvent se retourner contre nous et nous détruire. Et ce sont les contradictions internes du capitalisme. Il parle de cette expression de demi-civilisation qui, pour moi, l'infirmité morale du capitalisme de De Gaulle, c'est exactement le corollaire. C'est cette idée qu'il faut arriver au degré de civilisation le plus élaboré. Et pour De Gaulle, son angoisse ultime, en 68-69, quand il essaie de faire son grand référendum sur la participation, l'angoisse de De Gaulle à la veille de sa mort, à la fin de sa présidence, c'est comment les sociétés occidentales, les sociétés libres, vont pouvoir affronter ce défi qui arrive, qu'il n'appelle pas encore la mondialisation, mais dont il définit les traits. À l'époque, personne ne comprend de quoi il parle. Mais quand on lit maintenant ce qu'il dit, ce qu'il écrit à l'époque, ça paraît lumineux.
Sur la politique gaullienne et sur la présidence, vous nous orientez effectivement sur l'idée d'un De Gaulle qui pense certes le politique, certes l'État, certes la France, mais aussi une échelle plus large, celle de la civilisation. Et ce De Gaulle ne nous est pas forcément accessible. Et parfois, il ne nous est pas forcément connu. On a beaucoup dit que le général de Gaulle s'était aveuglé sur les possibilités de puissance de la France après-guerre, il s'était aveuglé sur l'idée que la France pourrait être maîtresse d'un nouvel empire en Europe occidentale, qu'elle pourrait embarquer ses partenaires européens dans une politique de puissance, qu'elle pourrait même parler au Québec, à l'Argentine, au Cambodge, et que finalement, de cet aveuglement, le général de Gaulle aurait négligé des éléments aussi essentiels que la politique intérieure. Il aurait par exemple confié des objectifs de croissance un peu délirants à la technocratie gaulliste, lesquels auraient bétonner la France, le général de Gaulle ne voyant, ne pensant que État, politique étrangère. Or, vous nous dites que sa pensée était beaucoup plus complète. Il y a beaucoup, vous savez, d'héritages de la politique du général de Gaulle qui font l'unanimité. l'idée que la Ve République ait donné à la France une certaine stabilité politique. L'idée aussi que les années 60 étaient une période bénie, enchantée, trente glorieuses, beaucoup de croissance économique, dont une partie significative peut être attribuée au mérite du gouvernement de l'époque. Mais il y a aussi un passif à gérer. On parle par exemple du De Gaulle bâtisseur, pas forcément inspiré. On parle des grands ensembles, on parle de cette politique agricole productiviste qui aujourd'hui aurait trouvé ses limites. Comment finalement dépatouiller ce De Gaulle dont la politique pouvait paraître quand même très technocratique, très matérialiste, très productiviste, très axée sur la croissance, et qui nous paraît aujourd'hui un peu en décalage par rapport à certains enjeux du temps?
Alors d'abord, on prête beaucoup à De Gaulle, qui vient plutôt de choses qui viennent plutôt de ses successeurs, parce que en réalité, la guerre d'Algérie se termine en 62, les institutions sont à peu près installées. Mais c'est en 62 que l'élection du président de la République au suffrage universel est instituée dans la Constitution, par la révision constitutionnelle de 62. Et en fait, on est à mai 68, 6 ans plus tard. Donc ça veut dire que les grands chantiers gaulliens, c'est 5-6 ans. Il a lancé un certain nombre de grands chantiers. Effectivement, il y a eu sur le remembrement, le productivisme agricole, en matière d'urbanisme, certes, mais enfin, c'est surtout les années 70 qui vont être l'émergence de tout cela. On voit à certains moments que De Gaulle, des hésitations ou des questions que De Gaulle se pose dans des instructions qu'il donne à son gouvernement, il donne des instructions à son premier ministre Pompidou, il voit que sur les paysages, sur un certain nombre d'éléments, il voit que le progrès et la modernisation de la France à laquelle il tient, puisqu'il pense que c'est par la richesse intérieure et la prospérité intérieure qu'elle va trouver un certain nombre de ressorts pour sa puissance nouvelle qui n'est plus celle de l'empire colonial, on voit qu'il commence à se poser des questions. Tout ça va très vite. Il faut voir que De Gaulle, c'est très, très court. La République gaulienne, la présidence gaulienne, c'est janvier 59, avril 69, c'est 10 ans, et c'est 10 années pendant lesquelles il faut mettre fin à la guerre d'Algérie, affronter mai 68, etc. Donc, en fait, la période de tranquillité et de prospérité, elle est très courte. Donc, je pense qu'il ne faut pas imputer à De Gaulle tous les déséquilibres qui sont venus d'une politique peut-être très industrialiste et peut-être un peu trop monolithique des années 70, qui sont plutôt les années Pompidou puis les années Giscard. Sur l'aspect international, je crois que c'est pas du tout de la rhétorique ce que De Gaulle dit. Les grands discours de De Gaulle sur le plan international, c'est pas des effets de manche, c'est pas pour faire exister la France. Moi, je l'ai cru, et dans mon livre sur la Ve République, si je le réécrivais aujourd'hui, il y a des passages entiers que je réécrirais différemment. Moi aussi, j'avais un peu cédé à cette image. En fait, non. Par exemple, j'ai un peu regardé, travaillé sur le voyage de De Gaulle en Amérique latine au milieu des années 60. Il fait un grand voyage en Amérique latine. Il était suivi par la CIA qui faisait des rapports au président Johnson. Ils étaient très inquiets parce qu'ils se disaient « De Gaulle va dire du mal des États-Unis dans les pays d'Amérique latine, etc. » Pas du tout. Et là, ils disaient « Non, non, c'est curieux, il dit pas de mal de notre politique. Il parle beaucoup de culture, il parle beaucoup des liens culturels entre l'Amérique latine et l'Europe. » Et c'est exactement ça, en fait. Pour De Gaulle, les identités culturelles, c'est absolument indispensable au maintien des civilisations. Il est contre le nivellement culturel et il pense que les peuples existent souverainement parce qu'ils sont démocratiques, que le peuple est souverain, mais ils existent aussi souverainement parce que leur culture, leur identité culturelle peut être préservée et peut échapper au grand arasement général. C'est pour ça que le discours qu'il fait au Québec, en fait, il est tout à fait cohérent avec ce qu'il avait déjà dit au Québec 20 ans plus tôt et qu'il n'a jamais cessé de dire. Il est contre cette sorte de globalisation, pour l'opposer à la mondialisation qui peut être quelque chose d'un peu différent et de penser de manière un peu plus positive. Il dénonce par avance ce que va être la globalisation, c'est-à-dire l'universel arasement des cultures et donc de la civilisation. Et en cela, je pense qu'il est un lecteur de Simone Veil, la philosophe, un lecteur de Simone Veil qui est une extrêmement attachée à cette idée de la culture comme ferment de civilisation, les gouttes de passé vivant qui définissent la civilisation, les grandes civilisations. Et je pense que ça exprime beaucoup la politique de De Gaulle. Quant aux propos un peu rudes qu'il a tenus vis-à-vis de la politique américaine au Vietnam, ben certes, c'était un peu rude, mais il avait raison. Les propos un peu rudes qu'il a tenus sur la politique d'Israël en 67, quand il dit à Israël... Il le dit d'ailleurs dans une très belle, il le redit à Ben Gourion dans une très belle lettre qu'il lui écrit quelques semaines plus tard pour expliquer pourquoi il a fait cette conférence de presse qui paraissait sévère pour Israël. Il dit, voilà, vous êtes un État-nation désormais, et vous êtes donc soumis aux ambitions, aux tentations des États-nations, mais vous avez aussi les devoirs des États-nations qui sont de s'assumer comme tels, et voilà, et donc avec les responsabilités que cela implique. De même, pour la même raison, quand il reconnaît la Chine, c'est parce qu'il dit, ben voilà, je ne souscris pas du tout au régime totalitaire chinois, mais le fait est que la Chine est un État qui maintenant pèse très lourd, c'est une très grande civilisation qui pèse très lourd désormais dans la politique mondiale, et ça n'a aucun sens de ne pas reconnaître le gouvernement chinois, qui reconnaît avant tout le monde. Et puis en plus, il pense aussi à la rivalité qui peut se développer entre la Russie et la Chine. Il pense géopolitique. Et c'est pour ça que Nixon suivra son exemple. Donc voilà, je pense que ce n'est pas du tout de la rhétorique, ni une façon... Ce n'est pas comme le feront beaucoup de présidents de la Ve République plus tard, qui feront de la rhétorique internationale pour échapper aux pesanteurs de la politique nationale. Lui, il y va avec des idées qui sont tout à fait cohérentes avec tout ce qui compose sa politique d'une manière générale.
Bien sûr, mais ce qui accrédite aussi l'image d'un De Gaulle pragmatique, et ce qui a aussi alimenté un certain nombre de critiques quant à sa politique étrangère, c'est aussi le résultat. On sait qu'il a tenté plusieurs choses. On parlait parfois d'un gouvernement à trois de l'Alliance Atlantique avec Macmillan et Eisenhower entre 58 et 60. On parlait ensuite du plan Fouché, donc l'idée d'une Europe qui serait une Europe... C'est pas souveraine, c'est pas puissance, mais en tout cas, une Europe détachée de l'Alliance Atlantique. Et puis, on a parlé de cette politique du grand large. Certains commentateurs, historiens dont vous êtes, ont pu dire, finalement, il essayait des choses, et ces choses systématiquement échouaient. Et puisqu'on échouait sur l'Alliance à trois avec les Anglo-Saxons, essayons l'Europe. L'Europe ne marche pas. Essayons le couple franco-allemand. Le Bundestag dépouille le traité de l'Élysée pour ne laisser que les échanges linguistiques et lui enlève ce qui aurait pu menacer effectivement l'imperium américain. Et bien dans ces cas-là, essayons le grand large. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère, je me fais l'avocat du diable, de fuite en avant finalement, avec un bilan qui peut sembler...
Bien sûr, il y a des moments où il échoue, mais il ne laisse jamais tomber pour autant, oui, tout à fait. Mais à mon avis, c'est pas... Et en plus, d'une certaine manière, c'est là que l'étude de De Gaulle est intéressante. L'affaire du rapprochement franco-allemand, c'est capital. De Gaulle était pour une Europe politique, mais il considérait que l'Europe politique devait se faire avec les États selon un processus différent de l'Europe du marché commun. Il a confirmé l'entrée de la France dans le marché commun. Il a dit c'est un excellent traité de commerce. Il faut faire du marché commun un traité commercial, le faire fonctionner. Mais l'Europe politique, c'est un autre processus, il disait. Et ça doit être fondé sur les États, sur les réalités politiques. Il y avait une autre vision, qui était celle de Jean Monnet, qui était de dire, non, ça va exalter les vieilles nations, les vieilles divisions, nous ne colonisons pas des États, nous unissons des hommes, on voit le résultat, quelques décennies plus tard. Et donc l'idée de Jean Monnet, c'est non, au contraire, faisons l'Europe économique, monétaire, etc. Et à partir de là, on fera l'Europe politique. Et c'est Monnet qui contribue à faire échouer le projet de traité franco-allemand dans son inspiration initiale, qui allait très loin. C'était pas du tout dirigé contre les États-Unis, d'ailleurs. C'était simplement, De Gaulle faisait le raisonnement, il disait, l'Europe, surtout avec l'apparition de la doctrine de la riposte graduée, De Gaulle disait, si l'Europe ne veut pas être totalement tributaire du parapluie nucléaire américain pour sa défense, et si elle ne veut pas se transformer en premier champ de bataille d'une guerre nucléaire entre les deux grands, il faut qu'elle soit autonome dans la détermination de ses positions diplomatiques, de sa politique de défense, etc. C'est pour ça qu'il propose l'Europe politique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la presse anglaise, The Economist, dit avec beaucoup d'humour, ça nous fait mal au cœur de le reconnaître, mais maintenant, on sait, quand on voit la politique de Trump, on sait que De Gaulle, c'est De Gaulle qui avait raison, qu'on a eu tort de ne pas l'écouter. Alors bien sûr, il a échoué. Les plans Fouché ont échoué. Mais il n'a pas renoncé pour autant. Il a continué à dire... ce qu'il pensait être la vérité. Je pense que c'est quelqu'un qui ne renonce pas, mais bien sûr qu'il a eu des échecs en politique étrangère. Il faisait avec ses moyens, mais il se heurtait à de fortes oppositions. Et je vous recommande d'ailleurs le livre d'Éric Branca sur l'ami américain qui montre que c'était des oppositions qui allaient très loin et que c'est pas l'anti-américanisme de De Gaulle, c'est plutôt l'hostilité du pouvoir américain d'une certaine époque contre De Gaulle qui était très forte.
Et alors, pour être originaire de Normandie, effectivement, les érudits locaux ont, par exemple, aussi participé à l'écriture de cette histoire de la transition politique en 1944 et ont montré la persistance d'une opposition américaine et toute l'intelligence politique des préfets de la France libre et de cette transition qui, à tout moment, en juin, juillet, août 1944, aurait pu échouer, aurait pu basculer, aurait pu réserver à la France le statut d'un pays vaincu et donc occupé, ce que souhaitait à tout prix éviter.
Y compris la monnaie d'occupation que les Américains voulaient imposer. Et c'est De Gaulle qui a réussi à l'empêcher.
Vous reparlez de Lamgotte, vous reparlez...
Et d'ailleurs, il a fallu plusieurs mois après le débarquement, pour que les Alliés reconnaissent, les Américains reconnaissent. Et là aussi, quand on parle du voyage à Moscou et qu'on fait du rapprochement, enfin du traité de la visite à Staline, un argument pour dire qu'il y avait une sorte de pacte secret entre De Gaulle et les communistes, pas du tout. De Gaulle s'est appuyé sur Staline pour essayer d'équilibrer un peu ses positions face aux anglo-saxons qui ne lui étaient pas favorable pour les Américains et très ambigu s'agissant de Churchill.
Il y a la politique, il y a la gloire, et puis il y a aussi le crépuscule. Cette grande politique qui obtient un certain nombre de résultats, qui est assis, comme on l'a dit, sur une vision de l'homme, sur également un regard assez moderne, assez critique sur le capitalisme, se heurte pour autant à cet événement que parfois on a caricaturé. On parlait d'un De Gaulle vieillissant, déconnecté de la société, incapable de comprendre ses évolutions, incapable de comprendre sa jeunesse, qui est effectivement mai 68. Alors, que dire? Dans votre discours, dans votre récit, bien sûr, le discours du 30 mai apparaît presque comme un second 18 juin. Vous savez, ce discours où il dit, où il arrive à retourner la situation avec toute l'audace de son verbe. Le livre insiste plusieurs reprises sur un personnage que l'on pourrait dire schmittien. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris que le pouvoir était affaire de chair, que le pouvoir était affaire d'occupation de l'espace, que le pouvoir était aussi affaire d'intimidation, et qui reprend à chaque fois cette grande geste des rois de France, cette grande geste de la politique traditionnelle, qui serait justement le coup de majesté, qui serait une succession de séances de flagellation. On parlait de 44, effectivement, 44, c'est des préfets de la France libre qui arrivent auprès des préfets de Vichy et qui, physiquement, charnellement, arrivent à occuper l'espace et réinstallent la France. Et De Gaulle, c'est un peu ça. C'est un peu une succession de coups de majesté. D'ailleurs, un mot que vous employez en bonne part, on pense à votre ouvrage sur Richelieu, et à cette idée que le coup d'État permanent ait été déjugé par Mitterrand, qui se méfiait de l'autorité politique, vous dites, bah oui, le gaullisme, c'est un coup d'État permanent, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui comme étant des factieux qui prennent le pouvoir, mais au sens que l'État se maintient, effectivement, par la force, par la puissance. Puis un peu ce chant du cygne, ce discours du 30 mai, on réoccupe la rue, on réoccupe l'espace. On fait comme les préfets de la France libre en 44, on tient la rue, on y va, on montre qu'on n'est pas seul, et on montre qu'il n'y a pas que la CGT, et que les jeunes qui ont le privilège de la force et de la violence. Et puis, un an plus tard, il s'en va. Ça ne marche pas. Cet événement est difficilement explicable. Cette période est difficilement explicable. Ce crépuscule, on a encore du mal à le comprendre, justement. Ça défie un peu l'entendement. Quand même.
Je crois que ça s'explique... Alors, je crois que... Moi, je tords un peu le cou à l'idée que De Gaulle était dépassé en 68, que Georges Pompidou, lui, avait tout compris, etc. Non, je crois que... De Gaulle, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, avait compris... En 67, quand il disait qu'il fallait lancer une politique sociale, il avait très bien compris qu'il y avait des choses qui couvaient dans le pays. Hein, peut-être qu'il n'avait pas vu que ça viendrait d'un mouvement étudiant, mais il voyait qu'il y avait quand même une sorte d'attente envers le pouvoir qui était lié au fait qu'il y avait le développement économique, le progrès industriel, qu'il y avait une demande de la part du monde du travail d'une plus grande participation aux fruits de cette croissance. Donc je crois qu'il n'a pas été du tout dépassé par 68, il a laissé simplement le gouvernement exercer son rôle, et puis au moment donné, il a vu que les choses dérapaient. Il a vu que les accords de Grenelle n'avaient mis fin à rien du tout et que le mouvement devenait incontrôlable. Donc, il a hésité et peut-être s'est-il dit que le problème, c'était lui, comme beaucoup de gens le répétaient dans son entourage, au CNPF, dans le patronat, etc. Beaucoup de gens disaient, maintenant, il faut que Gaulle s'en aille, c'est lui le problème. Et c'est pour ça qu'il part. Il part s'isoler, en fait, c'est pour ça. Il a voulu se couper de son environnement immédiat pour ne pouvoir réfléchir seul. Alors, il y avait le général Massu, mais je ne pense pas que ce soit le général Massu qui lui a inspiré sa position. Je crois qu'il voulait surtout...
Voilà. Qu'il aurait pris dans les yeux, qu'il aurait dit vous déprimer, ressaisissez-vous.
Non, je crois que je crois qu'il se posait des questions, De Gaulle, qu'il a tout envisagé. Il l'a dit. Quand il est revenu, quand il a fait son discours du 30 mai, il commence en disant « J'ai envisagé toutes les hypothèses, j'ai pris mes résolutions, dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. » Voilà, c'est ça. Donc il dit la vérité, il dit qu'il a hésité, qu'il a envisagé toutes les solutions, y compris de partir, mais il dit « je ne me retirerai pas ». Et il fait une allusion très claire contre l'avis de Pompidou, qui n'aurait pas voulu qu'il le fasse, il fait une allusion très claire dans le discours du 30 mai, au fait que si les élections ne peuvent pas se tenir et que si l'ordre ne revient pas, il utilisera l'article 16. Et comme on sait qu'il l'avait déjà utilisé au moment de la guerre d'Algérie, je pense que ça a eu un effet aussi assez déterminant sur son auditoire, et notamment sur le milieu politique qui avait cru à un moment donné que les choses, les politiciens en rancard qui croyaient qu'ils allaient pouvoir profiter de la situation. Et puis effectivement, la dernière année curieuse, enfin c'était pas censé être la dernière année, mais il a voulu à tout prix, pressé par le temps, sachant qu'il était âgé, que mai 68 avait été quand même une sévère épreuve, et le fait qu'il ait eu une majorité absolue à l'Assemblée aux élections de la peur de juin 68, il s'en moquait.
Chambre introuvable, oui.
Pour lui, ça n'avait aucune importance, c'était pas ça. Pour lui, il fallait qu'il ait une confrontation avec le peuple. Il voulait donc faire un référendum qu'il avait déjà projeté avant mai 68, mais que mai 68 l'avait empêché de mettre en œuvre. C'était un référendum qu'il voulait faire avant. Et il fait ce grand référendum sur la réforme du Sénat et la création des régions, qui en fait était portée par la vision que j'évoquais tout à l'heure. Il voulait que l'État renoue avec la société, et il voulait que ce soit la première étape de grandes réformes instaurant la participation en France à différents niveaux, avec des réformes sociales, des réformes économiques, etc. Simplement, je pense qu'il s'y est pris trop vite, mais parce qu'il était pressé par le temps, et je pense que surtout, le message politique était incompréhensible à l'époque, et d'ailleurs ses propres ministres, son propre entourage, ont dit plus tard qu'ils n'avaient pas compris quelles étaient les intentions exactes de De Gaulle, et même s'ils reconnaissaient que ce n'était pas un référendum suicide. Ils voulaient le gagner. Ce qui est intéressant dans cette affaire du référendum de 69, c'est que personne n'a compris, c'était presque philosophique, l'exposé des motifs que De Gaulle avait certainement rédigé lui-même, pour le projet de loi référendaire. Ce qui est intéressant dans ce référendum, et moi c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même qu'il ne l'a pas perdu de beaucoup. Certes, il a eu 47,5% ou 48% de oui contre 52, 52,5% de non. Mais sachant que c'était moins d'un an après mai 68, qu'il allait avoir 80 ans, qu'il a été quand même un peu usé par le pouvoir, et surtout, sachant qu'il avait un successeur tout désigné qui s'était auto-proclamé, qui était Georges Pompidou, je trouve quand même que le score qu'a fait De Gaulle au référendum, il a failli le gagner en réalité. Mais il avait vraiment trop d'éléments contre lui, trop les règlements de compte évidemment politiques, le Sénat qui a fait campagne contre lui, l'attitude ambiguë de Giscard d'Estaing.
Max Gallo dit « il aura toujours manqué au général De Gaulle le soutien du peuple ».
Bah, c'est ce que De Gaulle dit en 69, après le référendum, il reçoit François Goguel, qui doit travailler sur l'édition de ses textes, il le reçoit à la Boisserie, et il lui dit, vous savez, finalement, en 69, il n'y a jamais eu autant de gaullistes qu'au référendum d'après 69. Il y a quand même eu 47,5% ou 48% des Français qui ont voté pour que De Gaulle reste. C'est quand même inouï dans le contexte où ce référendum a eu lieu. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est assez impressionnant. Et je pense que même s'il l'avait gagné de peu, contrairement aux autres référendums qu'il avait fait avant, où il disait si le résultat est incertain, aléatoire, là, il serait resté, il aurait essayé de faire ce qu'il envisageait de faire.
Le référendum 69, coup de majesté raté pour essayer de reprendre la main, ou suffit stoïcien, on a un peu de mal à...
Et il voulait le gagner, il voulait le gagner, il l'a perdu. Il a eu une petite période, pas de déprime, mais de tristesse dans les deux semaines ou trois semaines qui ont suivi, il est parti en Irlande pour faire son voyage en Irlande. Il s'est mis à la rédaction des Mémoires d'Espoir et tout de suite, c'était fini. Il était dans autre chose. Il était dans la rédaction des Mémoires d'Espoir et donc dans l'élaboration d'un testament politique dans lequel il allait dire ce qu'il avait voulu faire avec la Ve République et il allait donner les voies et les moyens de la préserver des menaces qui ne tarderaient pas à s'exercer sur elle.
À part Malraux et Mauriac, il n'y a pas grand soutien dans cette campagne référendaire.
Non, c'est pour ça que je dis, que le résultat est impressionnant.
Il a Malraux, Mauriac et 47% des Français, ce qui est finalement pas si mal.
Oui, c'est ça. C'est quand même pas mal, compte tenu de tous les éléments qui étaient contre lui.
Avec l'œuvre d'Arnaud Tessier, on voit s'écrire finalement une histoire de la culture politique en France. Vous explicitiez d'ailleurs dans votre ouvrage sur Richelieu, il y a comme en France deux affects, deux tendances. D'un côté, un plaisir florentin pour la discussion parlementaire, la liberté politique, les intrigues, les combines du canal doré à François Mitterrand. De l'autre, effectivement, cette culture de la raison d'État, du pessimisme anthropologique, de cette idée que les hommes sont comme ils sont et donc il faut les gouverner. Cette pratique constante du coup de majesté, cette vision charnelle et théologique de l'unité d'abord trinitaire, puis nationale, puis ensuite de l'État. État incarné en une personne. Elle court du général de Gaulle à Richelieu, de cette façon à Bonaparte. Elle tente de ressusciter avec Philippe Séguin, dont vous nous parliez effectivement. Et puis aujourd'hui, on a du mal, ça, quand même, à savoir qui reprend ce flambeau. Puisque cette France florentine, cette France de cour, cette France qui aime l'assemblée, qui aime la politique, finalement, qui aime la politique au sens de la combinazione, etc. Bon, elle a sa valeur notamment littéraire, mémorialiste. Vous réservez quelques compliments à François Mitterrand. Je pense que votre histoire de la République que j'avais lu étudiant est un ouvrage de jeunesse, où peut-être vous aimiez davantage ces petites aspérités de la vie politique. Et puis elle a aussi ses brillants mémorialistes. Et puis on l'a dit, elle a aussi une esthétique de la fidélité qui n'est pas forcément sans attrait. Mais quand même, bon, l'époque commande qu'on en revienne à des choses sérieuses. Qui peut incarner aujourd'hui la raison d'État? Qui peut incarner aujourd'hui le coup de majesté? Qui aujourd'hui peut incarner la geste de Richelieu au général de Gaulle?
Je ne sais pas. Je ne cherche pas de successeur au général de Gaulle aujourd'hui, parce que ce sera un exercice un peu vain. Mais je pense que ce qu'on peut espérer, c'est du moins de voir qu'on s'inspire un petit peu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et par exemple, la campagne pour l'élection présidentielle, ce serait intéressant que les candidats se mettent à comprendre que l'élection présidentielle, c'est pas le programme d'une élection législative. L'élection présidentielle, c'est proposer une vision de long terme aux Français, c'est ça. Rien que ça, renouer avec l'esprit de l'élection présidentielle, je pense que ce serait un bon signe qui amènerait un peu d'optimisme.
Chers auditeurs, à dans un mois, et d'ici là, que Dieu vous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lucien Rabouillet, émission préenregistrée le 11 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 12 juin de 19h30 à 21h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.